En fait, j'avais un message jusqu'à vendredi. J'avais préparé un message et puis vendredi, le Saint-Esprit m'a parlé d'un autre message. Donc hier, j'ai pondu ce message. Donc il est tout frais. Il est vraiment tout frais. Et en fait, on va voir aujourd'hui ce qu'est un pionnier et ce qu'est l'esprit de pionnier. Et je crois que Dieu veut répondre cet esprit aujourd'hui, dans chacune de nos vies. Souvent, on pense qu'être un pionnier, c'est juste pour des gens. Tu as un appel de pionnier. Mais on va voir comment l'esprit de pionnier et être un pionnier, c'est une caractéristique pour chacun d'entre nous. Et on est appelé à être une église pionnière et on est appelé chacun et chacune à être un pionnier dans notre domaine. Donc, dans chaque génération, Dieu a levé des pionniers. Alors, dans l'église, mais aussi des pionniers dans la société. Et les pionniers, ils sont différents. Les pionniers, ils ont une autre espèce de foi. Les pionniers, ils ont une autre attitude. Ils ont une détermination qui est différente. Ils ne vont pas dans le sens du courant, en général, mais ils vont et ils marchent dans les voies de Dieu. Et ils sont dirigés, ils sont conduits par Dieu, ils écoutent Dieu. Et ils font, et ça c'est important, ce que Dieu leur dit de faire. Et je crois vraiment que Dieu a levé, élève des pionniers, il en a levé, mais je crois vraiment qu'il veut lever un peuple de pionniers. Et vraiment, ces jours-ci, dans cette saison, il veut lever une église pionnière, il veut lever un peuple de pionniers. Et une génération qui va frayer le chemin avec un esprit de pionnier, qui prend des nouveaux territoires, qui va percer, prendre des territoires dans la louange, au niveau des pensées, au niveau de la foi, avec un esprit conquérant et qui va avoir pour but d'atteindre des sommets. Et des sommets très très hauts pour en prendre possession. Et des sommets très souvent où personne n'a encore été. Et on a des montagnes que nous devons escalader chacun dans nos vies et qu'on doit posséder. Et ces montagnes, elles sont différentes. Et c'est intéressant de voir aussi que dans la Bible, Dieu parle de montagnes. Alors on va juste voir très vite trois montagnes avec trois personnes. Donc il y a Moïse, il a dû monter sur la montagne, vous connaissez, hein, il est monté sur la montagne. Il a rencontré Dieu, il a reçu des révélations, il a été rafraîchi et il est redescendu vers le peuple avec un message et plein de la gloire de Dieu. Il y a aussi Caleb, et on va beaucoup parler de Caleb aujourd'hui, l'esprit de Caleb. Et il était fixé pendant plus de 40 ans. J'ai vraiment revu ça hier. Pendant plus de 40 ans, il était fixé sur une montagne, le mont Hébron, pour la conquérir. Et il y a aussi une autre montagne, et celle-ci, elle doit être envoyée dans la mer. Ce n'est pas du tout le même style de montagne, mais c'est une montagne qui nous empêche à chacun de faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et celle-ci, Dieu ne nous demande pas de l'escalader, il ne nous demande pas de tourner autour, mais Jésus l'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette montagne? On lui dit au nom de Jésus, jette-toi dans la mer. Et en France, on a beaucoup de bons alpinistes. Vous savez que nos alpinistes sont bons, on a des beaux sommets, on a des belles montagnes. Et les alpinistes sont des personnes qui sont folles en général. Moi, quand je regarde les alpinistes, je me dis juste, ils sont fous. C'est juste de la folie ce qu'ils font, ce qu'ils bravent comme circonstances. C'est vraiment des personnes folles. Et c'est incroyable vraiment ce qu'ils peuvent faire. Et ce qu'il y a de merveilleux avec les alpinistes, c'est que quand ils ont atteint un sommet, au risque de leur vie, qu'est-ce qui se passe en général? Ils mettent un drapeau et est-ce qu'ils disent, c'est bon, j'ai atteint le sommet, maintenant je rentre chez moi et je suis tranquille? À peine ils ont atteint un sommet, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent au prochain. Ok, j'ai atteint le sommet de 4000 mètres. Ok, demain, je commence à travailler sur le sommet de 5000 mètres. Et quand ils ont atteint le sommet de 5000 mètres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Non, il y en a un qui est de 6000. Et puis ils vont regarder, est-ce qu'il y en a un qui est de 7000? Il y en a un qui est de 7000. Et ils vont continuer jusqu'à atteindre les sommets. Oui, et donc ils planifient un nouveau défi, une nouvelle montagne. Et des fois, après même qu'ils aient été secourus, ils ont failli mourir, ils oublient hier, ils planifient la prochaine ascension, ils pensent au jour d'après. Les alpinistes, ils ont vraiment cet esprit de pionnier, c'est que même si ça a été un échec, ou même si hier ils ont failli mourir, aujourd'hui, on oublie hier, on oublie ce qui se passait, et c'est aujourd'hui, on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Ils sont concentrés pour posséder de nouveaux territoires, une nouvelle montagne. Et c'est ça l'esprit de pionnier, c'est vraiment ça l'esprit de pionnier. Donc on va voir des caractéristiques. Et l'esprit de pionnier, il dit, on n'a pas réussi cette fois, ou bien on a réussi, mais très souvent c'est on n'a pas réussi cette fois, on a failli mourir, mais la prochaine fois, on va réussir. On va posséder, on va planter le drapeau français sur le sommet le plus haut. Voilà ce qu'est un pionnier. Voilà où il a ses yeux. Donc, en général, les alpinistes, ils ne laissent rien les stopper. OK, les pionniers n'y ont plus. Rien ne peut leur faire obstacle. S'il y a des obstacles, ils foncent. Rien ne peut leur faire obstacle. Ils prennent initiative tout au fond d'eux. Ils ont foi en ce qu'ils font et ils se mettent en route et ils n'abandonnent pas. Ils continuent et ils continuent et ils continuent. Alors, je commence en parlant des généralités, ok? On va voir après comment on peut devenir un pionnier. Je ne veux pas que certains soient dans leur chaise et pensent « Ok, c'est pas moi. » Ok? Justement, j'ai dit que ce n'est pas un titre. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite comme ça, mais on devient un pionnier. Donc, voilà. Si je réussis aujourd'hui, je continue. Et si j'échoue, le jour d'après, je vais toujours continuer. C'est la mentalité. C'est de cette façon qu'ils vivent, pour conquérir, pour vaincre, pour posséder de nouvelles montagnes, pour posséder de nouveaux territoires dans tous les domaines et aller de gloire en gloire. Et pour pouvoir montrer à la fin une photo. Regardez, je l'ai eu, ce sommet. Regardez, je l'ai eu, ce territoire. Pas pour s'enorgueillir, mais juste pour dire, pour brandir. Je l'ai eu, on l'a eu. Je l'ai eu seul ou on l'a eu ensemble, mais on a eu ce nouveau territoire. On en a pris possession, le territoire que Dieu nous avait donné, dont Dieu nous avait parlé, on l'a pris. Et ça, c'est dans le monde, ok? Donc il y a des pionniers dans le monde. Donc s'il y a des pionniers dans le monde, il y a aussi des pionniers dans l'Église. En général, le monde doit être le reflet de l'Église, du modèle que Dieu veut. Oui, donc je vais donner deux petits exemples, c'est assez intéressant. Il y a quelques années, ça m'est revenu, j'avais vu à la télé, des fois, vous savez, il y a des émissions où c'est des gens qui se recherchent, on recherche quelqu'un qu'on a perdu de vue depuis longtemps. Et en fait, c'était deux dames, deux jumelles, qui recherchaient leur père. Donc leur père était allemand, et elles étaient, je ne sais pas de quelle nationalité, peut-être américaine ou française. Et la maman était tombée enceinte avec ce monsieur, et puis c'était pendant la guerre, donc il était reparti dans son pays, et la maman avait gardé les deux jumelles, ces deux femmes, et elles n'avaient jamais connu ni jamais rencontré leur père. Donc, maintenant, elles avaient 52 ans, et elles voulaient connaître leur père. Donc, elles ont, pendant des années, elles ont essayé de trouver leur père, elles ont fait des recherches, elles ont pris des détectives, tout ce qu'elles ont pu, ça donnait rien. Peut-être depuis l'âge qu'elles avaient 18 ans. Et là, elles avaient 52 ans et elles n'avaient jamais abandonné. Et dans cette émission, on voyait la première fois à 52 ans, elles retrouvaient leur père. Et 3 semaines après, le papa est décédé. Mais c'est pour dire, ça m'avait marqué vraiment parce qu'elles étaient, elles n'ont pas lâché. Elles avaient un objectif, elles voulaient retrouver leur père. Et pendant plus de 30 ans ou 32 ans, elles n'ont pas lâché jusqu'à ce qu'elles le trouvent. Et ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Elles n'étaient pas découragées. Peut-être qu'elles ont été découragées. Je suis convaincue qu'en 30 ans, elles ont dû être découragées. Mais elles n'ont pas lâché. Elles n'ont pas abandonné. Elles voulaient cette montagne et elles l'ont eue. La deuxième chose que j'avais vue aussi, c'était au sujet de deux amis, deux hommes qui étaient alpinistes et qui voulaient aller au Kilimandjaro. En Tanzanie, en Afrique. C'est la montagne la plus haute. Je ne sais pas si c'est la montagne la plus haute du monde. Non. Hein. En tout cas, c'est une altitude de 6000 mètres. Et ils se sont préparés. Ils étaient jeunes, ils avaient 20 ans, 21 ans. Et ils ont voyagé ensemble, ils sont arrivés, ils ont grimpé une partie de la montagne et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer. Donc ils sont redescendus et ils s'étaient promis l'un l'autre qu'ils reviendraient quelques années plus tard avec un meilleur entraînement pour atteindre le sommet et conquérir cette montagne. Et des choses tragiques leur sont arrivées. Le premier, il a eu un accident, il s'est quasiment cassé le dos, il est resté presque infirme, en tout cas, invalide. Et l'autre est tombé gravement malade, il a eu un énorme problème de cœur, donc ça a été, c'était pas possible, c'était vraiment impossible de le faire. Et pendant 20 ans, ils s'étaient promis qu'ils atteindraient ce sommet. Pendant 20 ans, malgré les conditions difficiles, malgré leurs problèmes de santé, ils ont travaillé, ils ont été chez des kinés, ils ont travaillé sur ce projet. Ça a pris 20 ans. Et dans cette émission, on voyait, 20 ans après, il y avait la caméra qui les suivait et qui filmait. 20 ans après, ils se sont retrouvés, ils étaient prêts, leur dos et le cœur, ça allait mieux. Et ils sont partis ensemble en Tanzanie, au même endroit, au Kilimandjaro. Et on pouvait voir cette foi et cette persévérance, cette positivité que ces deux hommes, ils avaient. Et ils ont grimpé, ils ont fait cette ascension. Alors, on n'a pas tout vu, mais on a vu quand ils sont partis, on a vu quand ils sont arrivés. Et ils sont arrivés au sommet. Et là, ils ont planté, c'était des Norvégiens, le drapeau norvégien. C'était juste, waouh, on l'a vu. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment touchée, parce que c'est exactement ça, l'esprit de pionnier. Ça a pris 20 ans, ils avaient une vision, ils avaient dit on va faire quelque chose, il y a eu des difficultés, il y a eu la maladie, il y a eu de l'adversité, mais ils n'ont pas lâché. Et 20 ans après, ils ont conquéri et ils ont mis le drapeau sur la montagne. Et ce qui avait aussi d'intéressant, c'est que quand ils sont redescendus, est-ce qu'ils ont dit maintenant, on a 40 et quelques années, c'est fini pour nous? Ils n'étaient pas encore arrivés en bas, qu'ils avaient planifié de conquérir et de posséder un sommet encore plus haut. C'était juste merveilleux. Et j'étais là. Et des fois, on a des gens, des chrétiens, on a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui nous ont marqués, mais on a des modèles aussi dans la société. Et pour moi, c'était juste, waouh! Ils ont une foi, ils ont une persévérance, ils ont une ténacité, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils ont une vision, ils ont une passion, ils ne lâchent pas. Et ça, c'est l'esprit de pionnier. Et on peut tous l'avoir. Moi, ça a réveillé des choses chez moi. Il y a des gens qui ont réveillé cet esprit en moi. Donc vraiment, ma prière, c'est que ce matin, le Saint-Esprit, il réveille l'esprit de pionnier, ce côté-là de vous, en vous. Donc Dieu veut vraiment lever une génération de chrétiens, d'hommes, de femmes, de jeunes, pas de jeunes, des fois on pense que c'est juste une génération de jeunes, mais de petits, tout petits, jusque les 90 ans, une génération d'hommes et de femmes qui ne vont pas regarder à l'âge et dire « je suis trop vieux ». Suzanne, tu n'es pas trop vieille. Et c'est qui est le plus jeune ici dans la salle? Yeah. Lilia, tu n'es pas trop petite. Ils ne vont pas regarder à l'âge comme limite. Et Dieu veut mettre en eux un esprit pionnier pour qu'ils aient cette attitude de pionnier. Une patience de pionnier, un cœur de pionnier, un esprit conquérant. Une détermination de jamais, jamais, jamais abandonner. D'aller de montagne en montagne. De gloire en gloire. Okay? Des fois, on peut avoir la gloire. Est-ce que si on a la gloire de Dieu qui vient, est-ce qu'on va dire ça suffit ou est-ce qu'on va dire il y a plus? Il y a plus. Et même là, on va être, ok, on veut plus. On veut plus. Tant qu'on n'a pas ce qui a marqué dans la Bible, on ne va pas s'arrêter. Le sommet, il est là. Et on va aller. Qui possède domaine après domaine. Et un peuple de pionniers, ça ouvre le chemin. Ça ouvre la voie et d'autres qui arrivent derrière peuvent rentrer et passer plus facilement et les suivre et devenir eux-mêmes des pionniers. Donc c'est vraiment à cela que Dieu nous appelle. Et Dieu appelle l'Église Josué, dire c'est pas un mystère en tout cas pour moi, à être une Église pionnière. On est une Église pionnière. qui prépare le chemin, qui montre le chemin, qui ouvre la voie, qui perce, qui prend des nouveaux territoires et qui perce. Parce que quand on perce, c'est plus facile, pour ceux qui nous suivent, d'aller. Si nous, on perce ici, pour la France, ça va permettre à d'autres de rentrer et de suivre et de ne pas avoir à percer. Donc c'est à cela que Dieu nous appelle. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que chacun, vous pouvez dire, Dieu nous appelle en tant qu'Église, mais Dieu m'appelle aussi en tant qu'individu, membre de cette famille, à être un pionnier. Vous le croyez ? Et je crois aussi qu'on est dans un temps nouveau. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis le début 2014, c'est ce qui se dit. On est dans un temps nouveau. Et devant un temps nouveau, ce qu'il y avait hier, c'est historique. C'est important aussi. Alors, on ne vit pas d'hier. On ne vit pas d'hier. On peut prendre la révélation d'hier. On peut prendre la puissance d'hier. On peut être reconnaissant pour hier. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle onction, il y a des nouvelles possibilités. Et on va prendre possession de nouveaux territoires qu'on n'a peut-être même pas pensé ou imaginé, mais on va prendre possession de nouveaux territoires, de domaines, et on va les prendre par sa grâce. On va les prendre par la foi en Jésus, pas tout seul. Et on va les prendre parce que Jésus, on est en Jésus et Jésus, il est en nous. Et il y a un verset qui dit, Christ en nous, l'espoir de la gloire. Et Jésus en nous, Jésus en moi, Jésus en toi, il va toujours de l'avant. Est-ce que vous savez ça ? Jésus en nous, il va toujours de l'avant. Et on le suit, et où il marche, on marche. Ok, on n'est pas devant et on dit Jésus, suis-nous. Jésus en nous, il marche. Et c'est lui qui nous fait marcher avec lui. Dans sa direction, dans son rythme, dans ce qu'il veut. Et ce qu'il conquiert, on le conquiert aussi. Et je crois vraiment qu'il y a des domaines qu'il veut qu'on possède dans nos propres vies. Dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de la révélation, des visions, de la guérison, et aussi à un niveau collectif. Il y a des possessions à prendre individuelles, mais il y a aussi des terrains, des choses à prendre, à conquérir à un niveau collectif. Et le monde est prêt, et Dieu lève des personnes qui ne vont pas juste s'asseoir et attendre et rêver que quelque chose arrive, mais qui vont vivre avec un esprit de foi, d'attente. En anglais, on dit d'expectation, c'est encore plus fort, de conquérant. Et est-ce que tu veux faire partie de cette génération ou de cette saison et entrer là-dedans ? Est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous voulez ? Moi, je veux. Je veux. Même si je pense que j'ai un côté pionnier, je veux, il y a plus. OK ? Et je veux qu'on rentre en tant que corps. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, tous ensemble. Et ces personnes que Dieu lève, c'est des personnes qui disent, ce que j'ai, je veux le donner. J'ai Jésus en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, vous êtes d'accord ? Vous avez Jésus, le Saint-Esprit en vous. J'ai la parole de Dieu. J'ai le rafraîchissement. On est super bénis. J'ai l'onction. Et je veux donner ce que j'ai. Et ça, ça va te changer. Et ça va changer ta famille. Ça va changer l'église. Ça va changer ton boulot. Ça va changer la nation. Ça va changer les nations autour de nous. Parce que tu portes un esprit de pionnier. Qui dit... et qui demande à Jésus, « Jésus, quel est ton programme pour aujourd'hui ?» Et qui est prêt à suivre, qui est prêt à se mettre en route, et pas juste à attendre. Alors, je ne dis pas ça en condamnant, ok ? C'est juste pour... et qui est là, qui est prêt à... On va regarder dans Josué, chapitre 14, verset 5. Ah, j'ai besoin de ma Bible. On va lire ces versets du verset 5 au verset 11, 5 à 11, Josué 14. À 11 sur ma Bible. Ok, il est là. Un jour, des gens de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephunné, du clan de Kenaz, lui dit : À Kadès-Barnéa, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. J'avais 40 ans lorsque Moïse, le serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadès-Barnéa explorer ce pays. À mon retour, je lui fis un rapport sincère, tandis que les hommes qui m'avaient accompagné décourageaient le peuple. Je manifestais ma fidélité au Seigneur, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse me promit solennellement que je recevrais en partage le pays que j'avais parcouru et que celui-ci appartiendrait à moi et à mes descendants pour toujours à cause de ma fidélité au Seigneur Dieu. Il y a maintenant 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse et fait cette promesse, à l'époque où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse et me voici âgé de 85 ans. Et pourtant, à 85 ans, je suis toujours aussi vigoureux que lorsque Moïse m'a envoyé en explorateur. J'ai autant de force qu'alors, que ce soit pour la guerre ou pour toute autre activité. Et vous avez compris ce message ? 45 ans après, il a la même force, le même cœur, il n'y a rien qui a changé par rapport à la promesse que Moïse lui avait faite de la part de Dieu. Donc je crois que le Saint-Esprit veut transférer de cet esprit qui était sur Caleb, sur nous, sur la France, sur son Église, sur ses enfants. Cet esprit de pionnier, cet esprit, on va voir plus en détail, qui croit Dieu. Dieu a dit, je crois Dieu. Je crois que je crois que je crois. Il m'a dit quand j'avais 40 ans qu'il me donnerait, je posséderais. J'ai 85 ans, peut-être qu'il avait une canne, mais il dit qu'il avait la force, donc je ne pense pas qu'il avait une canne. Mais 45 ans, vous vous rendez compte, il dit, il n'y a rien qui a bougé, ni la force, ni la ténacité, ni la persévérance, ni le désir, il n'y a rien, ni la motivation. Et je prie vraiment qu'alors qu'on parle de ça ce matin, le Saint-Esprit, cet esprit de Caleb vienne sur chacun d'entre nous et dans nos cœurs et commence à réveiller cet esprit de pionnier à l'intérieur de nous. Et je demande vraiment au Saint-Esprit de le faire dans chacune de nos vies. Et ça va produire qu'on ne va pas s'arrêter. Ça va produire qu'on va aller de l'avant, quel que soit notre âge, comme j'ai dit tout à l'heure, quelles que soient nos circonstances, quel que soit notre passé. Mais on va dire comme Caleb, avec la vision devant nous, la vision de la promesse que Dieu avait donnée, en voyant l'invisible, il a vu dans l'invisible et il a appelé ce qui n'était pas comme si c'était. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça se produit. Donc un pionnier, il voit l'invisible devant lui. Caleb, pendant 45 ans, il n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'il voyait quand même dans l'invisible ? Il voit l'invisible, il voyait ce qui n'existait pas. C'était juste une promesse. Il la voyait. Un pionnier, il voit l'invisible devant lui. Un pionnier ne laisse pas ses sentiments ou ses circonstances le guider. Il a l'invisible devant lui, le but, la parole, les promesses, et il tient sur les promesses qu'il a, quoi qu'il arrive. Ok ? Ce n'est pas une recette. On est en marche et Dieu veut nous apprendre à devenir de plus en plus comme ça, ok ? Mais un pionnier comme ça. Et Caleb et Josué, ils ont vu pendant ces 40 ans, ils ont vu jour après jour la génération mourir. Il est dit qu'ils ont enterré. Ils ont vu toute cette génération mourir. Mais il n'a pas perdu le courage, la foi, la vision. C'est pas rien d'avoir vu toute une génération mourir, ok ? Souvent, quand je prêche, je dis les histoires de la Bible, c'est comme des histoires, c'est un peu comme des fictions. Mais quand on réalise vraiment ce que c'est pas rien d'avoir enterré toute une génération et d'être toujours là et d'avoir toujours la vision, la passion. Toujours là, toujours là. Le courage, la force. Mais il a poussé pour voir les promesses que Dieu avait dit qui allaient s'accomplir. Donc on va regarder au cœur de Caleb, donc on va voir ce qu'est un cœur de pionnier. Au verset 8, il dit « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple quand ils sont revenus, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Un cœur de pionnier est tourné vers Dieu, toujours tourné vers Dieu. Il a son cœur en Dieu, son bien-être en Dieu. Ses forces dans son Dieu. Il n'est pas fort en lui-même, il a ses forces dans son Dieu. Il recherche son Dieu. Il ne va pas à droite ou à gauche, mais il tient ferme en Dieu. Et il recherche premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses lui sont données par-dessus, en plus. Et Jérémie 29, 13 dit « Et ceux qui cherchent Dieu » Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui cherchent Dieu ? Est-ce que vous savez ? Ils trouveront Dieu. Ils trouveront pas juste Dieu, mais ils trouveront son cœur, ils trouveront son amour, ils trouveront son aide, ils trouveront son réconfort, ils trouveront sa sagesse, ils trouveront sa bonté, ils trouveront son repos, ils trouveront sa guérison, ils trouveront Dieu. C'est pas juste qu'ils vont trouver Dieu, un bloc. Ils vont trouver toute la bonté. Ils vont trouver Dieu dans toute sa dimension, dans tout son caractère, dans toutes ses richesses, dans qui il est. Et un pionnier n'est pas quelqu'un d'orgueilleux. Je sais que c'est quelque chose sur lequel Dieu me... Alana vit avec moi, donc je peux être honnête. Je suis pas orgueilleuse, mais je suis assez confiante de moi. Et ces derniers temps, c'est peut-être en début d'année, j'ai dû commencer à dire à Dieu, parce que des fois ça marche, parce qu'on a comme des méthodes, parce que des fois on peut commencer à s'appuyer sur nous, parce qu'on a des réussites. Et vraiment le Saint-Esprit, je vis quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il m'a juste ramené à dire, ok, à une dépendance de lui, vraiment. À une dépendance, c'était le mot, j'en parlais avec Jocelyne l'autre jour, mais vraiment à une dépendance de Dieu. Où mes forces, je sais que mes forces, elles viennent de Dieu. Ma sagesse, elle vient de Dieu. La révélation que j'ai. Et même des fois, quand je priais pour des gens, c'était comme si j'avais des... C'était facile. Jusqu'à ce que je dise, mais Saint-Esprit, je crois que je ne regardais pas toujours dans la bonne direction. Enfin bref, peu importe. Mais un pionnier, il recherche son Dieu. Il recherche son Dieu. Il sait que ses forces... viennent de Dieu. Et il s'humilie devant Dieu. Il choisit de s'humilier et de reconnaître qu'il n'est pas rien, on n'est pas rien, on a de la valeur, on est fils et fils de Dieu, mais que toutes bonnes choses viennent de Dieu, du Père des Lumières. Et c'est important d'être humble, de reconnaître ça et d'être dépendant de lui, parce que toutes bonnes choses viennent de lui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que de sa camaraderie avec Dieu, de son intimité avec Dieu, lui viennent la force, la sagesse, la patience, la persévérance, la foi, la joie. Ce n'est pas juste une qualité humaine ou quelque chose qui est donné juste comme ça. Des fois, on pense, je suis née, je suis plutôt comme ça. C'est vrai, jusqu'à un certain point, mais ça a une limite. Mais un pionnier, il sait... que ses forces, son caractère, sa persévérance, ça prend son origine, pas en lui, mais ça prend son origine dans sa camaraderie avec Dieu, dans son intimité avec Dieu. Et ça l'aide à garder ses yeux sur les promesses que Dieu lui a données, parce qu'il décide, parce qu'il s'humilie, dans le sens qu'il choisit d'être dépendant de Dieu et de reconnaître que sans Dieu, rien n'est possible. Il n'écoute pas seulement la parole et il la confesse, pas seulement, mais il entend la parole, il la laisse faire son travail dans son cœur, le former, le mouler et le préparer, le rendre semblable à Jésus. C'est vraiment être un pionnier, c'est vraiment une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de force, c'est une affaire de cœur et de compagnonnage, d'amitié, d'intimité avec Dieu. C'est de là que tout vient. Et un pionnier, comme Caleb, il a sa confiance en son Dieu. Donc ce n'est pas une formule d'être pionnier, je l'ai dit au début, ok ? On ne peut pas mettre une étiquette, tu es pionnier, dadada. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas quelque chose que tu peux être par une confession ou par une arrogance. Je suis pionnier, c'est mon don. Mais c'est quelque chose que tu deviens. C'est quelque chose que tu deviens. C'est formé par Dieu dans sa présence, dans l'intimité, dans sa proximité. Et là, ensemble, avec lui, tu meurs à tes propres forces, pour ses forces. Et de ses forces vient un esprit qui est un esprit de pionnier. De ses forces. Tu meurs à tes forces et de ses forces, il y a cet esprit de pionnier. Et tu le deviens. Et cet esprit, il est fort. Il est endurant. Il est persévérant. Mais il est aussi passionnément amoureux de son Dieu. Il conquiert. Il prend possession. Mais par amour. Par amour. Parce qu'il a reçu ça dans son intimité, dans sa relation avec son Dieu. Un pionnier, deuxième point, il donne la vie. Donc la Bible dit, de ton sein jailliront des sources d'eau vive. Un pionnier ne donne pas des formules ou des théories, un pionnier donne la vie, qui vient de la vie qu'il vit avec son Dieu. Qui ne vient pas de ses théories, qui ne vient pas de lui. Qui vient de la vie qu'il vit avec son Dieu, de cette source-là. Donc c'est important, vie, garde ton cœur. Ok, je ne veux pas juste dire ça aux jeunes, je veux dire à chacun d'entre nous. Garde ton cœur, protège ton cœur. Parce que si la vie est enlevée de ton cœur, elle est là, il ne te reste que des formules. Il va nous rester que des formules, que des recettes sur ce qu'est qu'être un pionnier. Mais si tu gardes ton cœur, tu as la vie d'un pionnier. Tu as la vie. Et un pionnier n'a pas à dire qu'il est pionnier. Ok ? Ça, c'est aussi important. Un prophète n'a pas à dire qu'il est prophète. Un pionnier, il vit sa vie avec son Dieu. Il a un style de vie. Il a un caractère qui témoigne et qui font que les personnes autour voient cet esprit en lui. Et qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent le suivre, elles veulent la même chose. Moi, dans ma vie, j'ai vraiment eu des gens qui, pour moi, ont été des pionniers dans le naturel. Mais après, j'ai Catherine, la première personne qui m'a marquée, qui a réveillé quelque chose en moi, c'est Catherine Kuhlmann. Je me suis convertie, j'ai lu ses livres, j'ai dit, je veux être comme elle. Alors, pas comme elle, je veux ce qu'elle a. Ça a mis de suite un standard. Je veux ça. Je veux ça. Et après, il y a d'autres personnes. Il y a des gens, pour moi, qui ont été des modèles de pionniers et qui ont réveillé le pionnier, cette passion, qui ont réveillé ça en moi. Et quand on est un pionnier, on n'a pas besoin de dire « Hey, je suis un pionnier, suivez-moi. » Non. Les gens le voient, ils sont attirés, ils disent « Ok, je veux suivre, je veux ça, je veux devenir comme ça, je veux. » Et ça donne envie. Ça va nous donner envie. Quelqu'un qui est bouillant, quelqu'un qui vit des choses avec Dieu, ça donne envie, c'est contagieux. Non ? C'est pas contagieux ? C'est comme la peste. C'est contagieux. Et des fois, même si on n'a pas envie d'être touché par quelqu'un qui est contagieux, qu'est-ce qui se passe ? On est à côté et on en est au bénéfice. On le prend en pleine figure. Ok ? Donc un pionnier donne la vie. Un pionnier, c'est dur de dire ça avec un chewing-gum. Un pionnier ne parle pas seulement de la foi, mais il vit un style de vie de foi. Et il élève la foi des autres. Ok ? Il ne parle pas de la foi. Sa vie est un témoignage. Il vit la foi. Et la foi, elle ne vient pas seulement en écoutant la parole de Dieu. La foi, elle vient surtout d'une relation avec ton Dieu. On prend souvent ce verset, la foi vient de ce qu'on entend et ce qui vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de là. Mais la foi, tu veux être un homme ou une femme de foi, lis la parole, ok ? Connais-la par cœur, médite-la. Mais prends du temps avec ton Dieu. Elle vient de ta relation avec ton Dieu. Un homme et une femme de foi ne connaissent pas juste la parole, ils connaissent le Dieu de la parole. Ils le connaissent personnellement. Et ils sont transformés et impactés et ils reçoivent de ce Dieu-là. Et pas juste d'un livre ou de pages ou d'histoires. Mais ils reçoivent de ce Dieu-là qu'ils connaissent. Parce qu'il est dit que Dieu est l'auteur et le finisseur de notre foi. Je ne sais pas si c'est finisseur, j'ai traduit de l'anglais. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire, hein ? Et le consommateur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc la foi, ce n'est pas une formule, ce n'est pas un titre, mais c'est un style de vie. Hein ? La foi ? Et c'est un style de vie. Je vis dedans, je vis la foi. Ok ? Je marche dedans, je dors dedans. Je ne sors pas, je n'ai pas la foi. Je me couche, je n'ai plus la foi. Ok ? Je vis dedans, je respire la foi. Je vis dedans. C'est un style de vie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est contagieux. Cette foi que tu as en toi, de Dieu, elle est contagieuse. Elle est vraiment comme la peste. Et tu t'approches d'une personne, tu t'approches d'une personne, et hop, qu'est-ce qui se passe ? Cette foi, elle vient sur l'autre. Elle est contagieuse comme la peste. Et d'un coup, la personne qui est à côté de toi, elle commence et elle se met à croire. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois ? J'espère ? Waouh, c'est super ! Je crois qu'il va me guérir. Je crois qu'il va intervenir dans mes finances. Je crois qu'il va guérir mon enfant. Je crois qu'il va sauver mon couple. Elle produit ça cette fois. Elle est vivante. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une notion. Elle est vivante. Et elle, la foi que tu vas avoir avec Dieu, elle va contaminer autour de toi. Et elle va changer les choses. Et cette foi, elle dit... Je ne sais pas comment ça va se faire. Les gens de foi, ils disent ça. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais que Dieu va le faire. Cette foi, elle dit ça. Je ne sais pas du tout. Ça me paraît impossible. Humainement, ce n'est pas possible. Mais je sais que Dieu va le faire. Je prie que Dieu, en le rencontrant, en le connaissant, en mangeant sa parole, on ait cette foi, tous. Pas juste un ou deux. Des fois, on dit, il y a des dons de foi, il y a des gens de foi. Non, on est un peuple de foi. Qu'on est tous, je ne sais pas, je ne comprends rien, j'en sais rien, mais je sais que Dieu va le faire. Amen. Un pionnier, il crée la foi partout où il va. Et la différence entre un pionnier et quelqu'un qui croit un peu ou qui n'a pas une grande foi, c'est que si Dieu dit quelque chose, le pionnier il va dire « Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. » Et l'autre personne, elle va faire « Ha, 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 amen !»« Yeah, amen, oui. » Vous connaissez ? On le fait de temps en temps. Le pionnier, il dit « Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. » Ok ? La personne, oui, amen, oui. C'est vraiment la différence. Même dans l'expression, même dans le langage, même dans l'attitude. Il y en a qui dit, c'est bon, ça va se faire, je le sais. Amen. J'aime bien. Parce que j'ai ça dans la tête. Et c'est possible d'avoir la foi dans notre cœur par rapport à une parole que Dieu nous a donnée tout en ayant une bataille dans nos pensées. Est-ce que vous le savez? Des fois, on a la foi, mais on a une bataille. C'est pourquoi c'est important de ne pas laisser notre intelligence contrôler notre esprit, mais de contrôler notre intelligence avec notre esprit. Ok? De régner sur tes pensées, d'avoir la victoire sur les mensonges, de mettre le casque du salut. S'il y a une faiblesse dans les pensées, mets le casque du salut. Protège cette parole, protège sa promesse. Sinon, la parole, elle va être écrasée, noyée, perdue, et tu vas perdre ce que Dieu veut te donner. Et ça, ça s'appelle un avortement spirituel. Ça s'appelle un avortement spirituel. Dieu a donné, Dieu a parlé, mais j'ai cru mes pensées, j'ai suivi mes pensées. Et j'ai pas reçu, j'ai pas pris le territoire. Et c'est un avortement spirituel. On ne reçoit pas, parce qu'on était appelé à prendre ou à recevoir. Donc tu dois tenir aussi, c'est important que chacun d'entre nous, on tienne dans notre propre foi. Okay? On peut avoir des pères de la foi, des modèles, et c'est important, parce qu'ils nous donnent envie. Le premier imitateur, c'est Jésus. Okay? On doit d'abord imiter Jésus. Mais Dieu nous donne des modèles, des hommes et des femmes de foi, qui vont nous donner envie, qui vont nous réveiller, qui vont nous montrer que c'est possible, qu'on peut aller là. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ma foi, ok ? C'est important. Ou sur celle de David, ou sur celle de Luc. Des fois, dans des églises, toute l'église s'appuie sur la foi du pasteur. Le pauvre pasteur, mais c'est dangereux. Si tu t'appuies sur ma foi, et que je pars, ou que je tombe, ou que j'en ai plus, qu'est-ce qui va se passer avec ta foi? Ok? Tu peux pas. Tout s'écroule. Donc c'est important, on peut pas s'appuyer sur la foi. On doit chacun être à cette place avec Dieu où cette foi va être bâtie. Et c'est à la place avec Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu que cette foi elle va être bâtie. Dans une relation avec lui, comme je disais, dans la parole, dans la prière, dans la louange, dans tout. Et où tu tiens dans la parole, aussi c'est important de tenir dans la parole que Dieu t'a donnée. C'est vraiment important. Et tu tiens ferme, quoi que tu confrontes. Alors, c'est pas facile, ok ? Tiens ferme quoi qu'on confronte. Le pionnier, il tient ferme quoi que les autres disent. Si l'autre, il dit ha 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 ha, amen, il va continuer à dire je sais que je sais que je sais. Les circonstances peuvent me dire, tu peux me dire, mes pensées peuvent me dire, le diable peut me mentir, la société peut me dire je sais que je sais que je sais, je le sais que Dieu va le faire. Donc on tient ferme quoi que tu confrontes, quoi que les autres disent, quoi que les montagnes qui s'élèvent devant toi te disent. Et tu laisses rien toucher tes pensées. Non, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu m'a dit. Il a dit dans la parole, mais il me l'a dit quand j'étais avec lui. Il me l'a dit, je l'ai entendu me le dire. C'est ce qu'il me dit. Et je prends ça et je tiens avec. C'est important que tu vives comme un pionnier dans un domaine. Alors, il n'y a pas un pionnier type, ok? Je crois qu'on est appelé à être des pionniers dans notre domaine. Au travail, à la maison, à l'église, dans nos dons. On est appelé à être des pionniers dans notre propre domaine, quoi que ce soit. C'est pas... Et souvent, on a eu ce schéma, le pionnier, c'est celui qui part sur les bateaux, c'est celui qui... Ok? Non. Dieu nous appelle et veut nous lever pour qu'on soit pionniers où on est et quoi qu'on fasse dans nos domaines personnels de vie. On a besoin de leaders, de cellules de maison qui soient des pionniers. On a besoin des leaders de louanges qui soient des pionniers. Ok ? On a besoin d'administrateurs qui soient des pionniers. On a besoin de personnes qui font les travaux qui soient des pionniers. Ok ? Être pionnier, ce n'est pas juste pour les gens qui sont sur l'estrade. On a besoin de leaders dans chaque domaine qui ne s'appuient pas sur la foi du pasteur ou d'un autre leader, mais qui se lèvent et qui disent « Je vais avoir cette montagne au nom de Jésus. Je vais prendre, dans mon domaine, je vais prendre cette montagne. » Et ton domaine, c'est peut-être la politique. Le domaine, c'est pas que l'église. Le domaine, c'est dehors aussi. Ok ? Trouve ton domaine. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une place où on est pionnier. Dans le domaine où Dieu te met, où Dieu t'envoie à ton travail, Janine, sois une secrétaire pionnière. Ok ? Les mamans qui sont à la maison avec leurs enfants, soyez des mamans pionnières. Les mamies, soyez des mamies pionnières. Les papis, soyez des papis pionniers. Werner, sois un agriculteur pionnier. Amen. Et ces personnes pionnières qui, même si elles doivent attendre, comme Caleb, combien d'années il a attendu, Caleb ? Vous vous rappelez ? 45 ans. Même si je dois attendre, je vais l'avoir. Je vais persévérer. Je vais la conquérir avec mon Dieu un jour. Ok ? Des fois, le un jour, ce n'est pas notre jour. Des fois, c'est 45 ans après. Des fois, c'est le lendemain. Des fois, c'est instantané. Des fois, c'est 10 ans. Mais je vais la conquérir avec mon Dieu un jour. Je vais la voir. Je vais la conquérir. Et je vais planter mon drapeau. Donc, un pionnier, une personne pionnière, ne s'appuie pas sur la foi de quelqu'un d'autre. Mais tu as ta propre vie avec Dieu, avec ton Dieu. Tu n'es pas indépendant, mais tu vis une vie avec ton Dieu. Donc, on peut recevoir des semences d'une personne qui est pionnière, mais tu ne peux pas t'appuyer et mettre ta confiance dans ce qu'elle a. Ok ? Tu dois faire confiance à Dieu et construire ta propre vie avec Dieu. Donc être un pionnier, je disais, ça ne concerne pas que les jeunes, d'accord ? Mais ça concerne Suzanne, ça concerne les personnes qu'on a au milieu de nous qui sont plus âgées, ça concerne vraiment les gens qui sont d'âge avancé. D'accord ? Souvent on entend « je suis trop vieille maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, ça concerne les personnes 85 ans, ça concerne les mamans qui vont dire « je vais être comme Caleb ». Avec le cœur de Caleb, avec la foi de Caleb, avec la patience de Caleb, avec la vision de Caleb, et je vais conquérir. Aujourd'hui, je vais me tenir devant ma montagne, je vais la conquérir au nom de Jésus, et je vais planter mon drapeau là où je suis. Une personne pionnière, ce n'est pas quelqu'un qui se stresse pour essayer de produire des choses, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Il croit Dieu, il a confiance en Dieu. Et Dieu est au centre. Un pionnier a un cœur pour Dieu. Il a une vie personnelle avec Dieu. Il va où d'autres ne vont pas, ou n'ont pas encore été. Il reçoit ses forces de Dieu, et il le sait, il vaut mieux. Il marche, il fraye le chemin. Il n'est pas appelé à marcher seul, mais il a une place où il marche un peu seul parce qu'il l'ouvre. Il se tient sur des zones qui n'ont jamais été visitées. Et il perce, pas juste pour lui, il perce pour des dizaines, il peut percer pour une église, il peut percer pour des centaines, il peut percer pour des milliers, il peut percer pour une nation. Il perce. Il peut vraiment percer. Et il y a des gens, Catherine Kuhlmann, elle a percé. Elle a fait des percées qui ont eu un impact sur des millions. L'église Bethel ont eu des percées qui ont un impact, pas juste sur leur église, pas juste sur leur ville, pas juste sur les États-Unis, mais il y a un impact qui est au niveau des nations. Il perce, le pionnier. Un pionnier, il a une vision et il voit les possibilités là où personne d'autre en voit une. Là où il n'y a seulement que des impossibilités, un pionnier, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir la possibilité. S'il y a un verre qui est moitié plein ou moitié vide. Ok, et un verre qui est à moitié rempli, il va voir quoi ? Moitié plein. Le pionnier, il voit l'impossible. Il ne laisse pas les impossibilités contrôler ses pensées, mais il a son cœur et ses pensées focalisés sur le Dieu des possibilités. Ce n'est pas juste qu'il a une force de caractère, il a son cœur et ses pensées focalisés, centrés sur un autre pionnier, sur Luc, sur qui ? Sur le Dieu des possibilités. Il parle de possibilités et pas d'impossibilités. Faisons attention à ce qu'on prononce, ok ? C'est important. Parlons comme Dieu parle, parlons les possibilités. Il y a un problème ? On ne fait pas « ha ha ha, amen ». On parle la possibilité, on parle ce que Dieu dit. C'est vraiment important. Parce qu'on se lie avec les paroles qu'on parle sur les situations. C'est vraiment important. Donc, il parle de possibilité et pas d'impossibilité. Et il appelle ce qui n'est pas comme étant. Et ça se produit. Ça le fait arriver. Il voit les possibilités quand personne ne les voit. Donc, c'est bien, ok ? C'est bien qu'il y ait une ou deux personnes comme ça. Mais s'il y a une grande foule qui ne croit pas, c'est dur, mais on est appelé à devenir tous ces hommes et ces femmes avec cette foi. Avec, on voit l'impossibilité, tous. Ça va être énorme le jour où on sera tous comme ça. Vous imaginez ? Ça fait peur, hein ? Dans le bon sens. Un pionnier ne s'arrête jamais. Tu ne peux pas l'arrêter. Il voit toujours plus loin. Ok, on disait, il a gravi un sommet. Qu'est-ce qu'il fait ? Il voit un autre plus haut. Il ne s'arrête jamais, on ne peut pas l'arrêter. Quand une chose est faite, alors ce n'est pas qu'il est activiste. Ok ? Ce n'est pas de l'activisme, ce n'est pas parce qu'il doit faire quelque chose. Quand une chose est faite, un niveau de gloire, quand une promesse a été accomplie, quand une percée a été faite, quand une victoire a été remportée, il est reconnaissant. Mais il ne s'arrête pas. Et il ne s'arrête pas parce qu'il entend le cœur de Dieu. Et il entend le cri des nations. Il entend, la guérison c'est quelque chose, mais j'entends et je vois, et ça touche mon cœur quand il y a quelqu'un qui est malade, quand il y a quelqu'un qui meurt. À chaque fois que le diable vole quelqu'un par un cancer ou une maladie, je vois ça, j'entends ce cri dans mon cœur. Et il ne s'arrête pas parce qu'il entend le cri des enfants. Il entend le cri des perdus, pour ceux qui sont plus évangélistes. Il entend le cri des familles brisées. Il entend le cri des abusés. Il entend le cri des personnes qui sont prisonnières. Et il ne peut pas s'arrêter, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui entend le cri, qui dit « Viens, viens, viens. Viens avec l'aide de Dieu, viens avec ton Dieu, viens. » Donc un pionnier, il entend les cris. Un pionnier, il coule avec le flot de l'Église et la vision de l'Église. Et il marche dans la stratégie qui est dans l'Église locale. Un pionnier n'est pas une personne indépendante. C'est une personne qui a sa propre vie avec Dieu, mais il est lié avec la vision, il est lié avec la stratégie d'une Église locale. Il donne ses dons et sa vie dans l'Église locale et extra-locale. Ça peut arriver, pour être pionnier dans son domaine. Il donne ses dons et sa vie dans l'église locale pour être pionnier dans son domaine, dans l'église locale. C'est important. Un pionnier n'est pas un électron libre, ok ? Il garde son cœur brûlant. Il est persévérant et il est différent de toute autre personne qui n'est pas un pionnier. Je crois que si on est tous des pionniers un jour, on sera tous les mêmes, ok ? On ne sera pas différents. Il garde son cœur brûlant, premièrement, d'amour pour Jésus. D'amour pour la parole. D'amour pour ses frères et sœurs. D'amour pour le monde. Il garde son cœur brûlant parce qu'il est avec son Dieu et que son cœur brûle. Je disais, un pionnier, il accomplit, il n'abandonne pas. il ne garde pas d'amertume. Il veille à garder la déception loin de son cœur. Et comment il peut y arriver ? C'est en restant proche de Dieu. C'est pour ça qu'il y arrive. Ou qu'il est en voie d'y arriver, ou qu'il est en processus d'y arriver. Ok ? C'est pas par lui-même. C'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est proche et il reste proche de son Dieu. Parce qu'il sait que c'est là qu'il y a sa force. Il sait que c'est là qu'il y a la source. Donc Caleb, il se tenait là 46 ans après. Le pionnier Caleb. Et il a dit à Josué, « Josué, je vais avoir cette montagne. J'ai la même force aujourd'hui, à 85 ans, qu'il y a 45 ans. » C'est énorme, hein ? J'ai 85 ans, mais j'ai la même force. J'ai la même vision. J'ai gardé le cœur. Pourquoi il a gardé le cœur ? Parce qu'il a gardé une relation avec Dieu. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la vie avec Dieu. Et maintenant, 45 ans après, je vais voir la promesse s'accomplir. Je vais prendre possession de cette montagne. Et vraiment, je crois que Dieu veut nous donner une onction aujourd'hui. Il veut libérer quelque chose dans nos vies, quelque chose de plus. Alors peut-être que certains, au milieu de vous, vous vous dites, j'apprends rien, c'est déjà ce que je vis, tant mieux. Ok ? Ou on est en chemin. On peut peut-être... Il y en a certains qui peuvent dire, waouh, moi je suis très très loin. C'est pas grave, ok ? Mais je crois que Dieu veut donner justement aujourd'hui une onction. Et il veut libérer quelque chose sur nos vies qui fait que tu vas être un pionnier dans ton domaine. En tant que mamie, en tant que papy, en tant qu'épouse, en tant que prof, en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille, en tant que leader de louange, en tant que... whatever, dans chaque domaine de la vie. Donc, sois une famille pionnière, soyons une église pionnière, soit une pionnière. Vous pouvez vous le dire, chacun. Vous pouvez vous parler et vous le dire. Vous donnez le droit de l'être. Vous pouvez dire votre prénom, vous parler et vous dire, yeah. Nadine, sois une pionnière. C'est important de se parler. C'est important que par notre esprit, on parle à notre âme. Et une église pionnière, je disais, elle est faite de personnes pionnières. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu t'invite à être un pionnier ce matin.